Bonjour tout le monde, merci d'être là, et merci beaucoup au professeur Boissonnat de me permettre de parler ici. Donc l'exposé tourne autour de la problématique du dessin de graphe. Ça marche le micro ? C'est bon ? Donc quelle est cette problématique ? Donc c'est un volet qui est d'une part un peu disjoint de la géométrie algorithmique, mais les connexions sont assez nombreuses et j'aimerais bien insister sur ces connexions avec donc d'une part la géométrie algorithmique et de façon plus générale des questions de topologie, de géométrie, de théorie des graphes. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un graphe ? Donc un graphe, c'est une structure qui est vraiment élémentaire, qui vise simplement à représenter dans un système ou dans à peu près n'importe quel phénomène que l'on veut étudier, des relations. Donc un graphe, c'est un ensemble de sommets, généralement qu'on appelle V, et un ensemble d'arêtes entre ces sommets. Et donc l'idée, c'est que les sommets vont être des points d'intérêt et les arêtes vont représenter les relations qui nous intéressent entre ces sommets. Donc c'est une structure mathématiquement très très simple, et cette simplicité est source d'ubiquité. Ça fait que ces graphes, on les observe absolument partout. Donc classiquement, on dit que les premières représentations de graphes qu'on voit, qu'on a pu trouver, viennent de ce jeu de société auquel on joue en Égypte, où donc il y a des cases, il y a des chemins entre les cases, et il s'agit de coincer son adversaire en mettant des jetons blancs et noirs dessus. Et vraiment, il y a peu de champs d'application, de domaines scientifiques où on ne se retrouve pas à certains moments avec des graphes. Par exemple, en cartographie, le graphe est évident. Dès qu'on a un réseau routier, on va avoir des nœuds routiers, par exemple des villes, et des routes entre ceux-ci qui vont représenter une certaine structure. Quand on étudie des réseaux, en ce moment, la thématique des réseaux sociaux est assez à la mode, ou les réseaux d'influence, ce genre de choses. Ça se modélise extrêmement bien par des graphes. Pour un réseau social, un individu va être un sommet, une relation d'amitié va être représentée par une arête. Là, dans une image qu'on ne voit pas très bien ici, c'est une carte réalisée par un artiste américain de la finance mondiale, donc avec les grands acteurs de la finance mondiale représentés par des points et leurs différentes relations qui s'agencent. Et de façon générale, je dirais, cette ubiquité, on la voit aussi dans tous les domaines mathématiques qu'on pourrait étudier. Et donc, pour illustrer, par exemple, il y a quelques semaines, les archives de Grothendieck ont été mises en ligne, et en fouillant un peu simplement au hasard dans les 18 000 pages qui ont été mises en ligne, on trouve tout un tas de gribouillis qui représentent des structures de graphes, où on voit des sommets et des arêtes. Alors, évidemment, c'est les archives de Grothendieck, on n'a aucune idée de ce que ça représente, mais c'est pour dire que la structure est là, et on la retrouve vraiment dans tout un tas de pans de mathématiques. Donc, c'est quoi la problématique d'un dessin de graphe ? La problématique, c'est qu'on part d'un graphe. Donc un graphe, vraiment, c'est une donnée abstraite. Donc c'est ce qu'on voit à gauche. On a un ensemble de sommets. Donc ici, par exemple, tous les entiers entre 1 et 7. On a un ensemble d'arêtes. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, etc. Et on veut dessiner ceci. Dessiner ceci, ça veut dire, par exemple, on met ça dans le plan, on va avoir des points et des arêtes. Et idéalement, on veut dessiner ça de façon à ce que le dessin représente quelque chose du graphe. Les informations du graphe, on puisse lire sur le dessin. Donc, par exemple, là, il y a une certaine représentation qui est une représentation du graphe, mais d'un certain nombre de points de vue, on peut considérer qu'elle n'est pas super. Elle est un peu emmêlée, les arêtes ne sont pas très belles. Donc une première contrainte qui va être intéressante sur les représentations, c'est d'éviter les croisements quand c'est possible. Donc celle-là sera un peu meilleure que celle d'avant. Et puis les arêtes ici ne sont pas très belles, donc peut-être qu'on voudra les lisser. Et avec mon angle, ça ne se voit pas très bien, mais celle-là, elle n'est pas super parce qu'elle n'est pas parfaitement aussi symétrique que le graphe. Ça, c'est une donnée qui est intéressante. Un graphe peut représenter une structure qui n'est pas uniquement au niveau des arêtes ou des sommets de façon ponctuelle, mais une structure globale. Et donc cette représentation-là est plus symétrique que la précédente. Donc, une question de dessin de graphe, c'est quelle est la meilleure fonction f de g dans R2 qui va nous permettre de comprendre quelque chose du graphe et comment est-ce qu'on peut faire pour la calculer. C'est un domaine qui est fondamentalement informatique. Donc vraiment, ce qu'on aimerait faire, c'est avoir des algorithmes efficaces qui prennent en entrée tous les graphes auxquels on peut s'intéresser, et qui, en sortie, donne une bonne représentation de ces graphes-là. Donc, quels peuvent être les enjeux d'une bonne représentation ? La meilleure représentation, c'est certainement pas quelque chose de bien défini abstraitement. Un enjeu clé qui est très important dans la littérature et sur lequel je vais vraiment insister dans cet exposé, c'est un enjeu de lisibilité en termes de croisement. Donc c'est l'idée que dès qu'on a un graphe où il y a de nombreux croisements, il est tout de suite beaucoup moins lisible qu'un graphe où il n'y en a pas. Et c'est ce qu'on retrouve. Donc il y a une certaine littérature qui mène des études psychologiques, qui fait des tests sur. On montre certaines représentations d'un même graphe et on regarde lesquelles sont les plus appréciées par des utilisateurs. Et c'est quelque chose qui revient souvent. Avoir très peu de croisements et zéro croisement entre les paires d'arêtes, comme c'est le cas sur ce dessin-là, c'est un objectif très important. Donc ça, j'aimerais dire, c'est un objectif qui est de nature topologique. Topologique, pourquoi ? Une façon d'exprimer cette contrainte, c'est de dire que un graphe, c'est un certain espace topologique. On a des sommets, on a des arêtes, il y a une topologie qui est héritée par cette structure-là. Et on va vouloir le plonger dans R2 de façon à ce que ce soit injective. Là, cette notion que les arêtes ne se croisent pas, c'est une notion d'injectivité ou d'homéomorphisme, de plongement, en reprenant les termes de Jean Daniel. Donc c'est une notion qui est topologique. Il va y avoir de nombreux facteurs qui sortent de cette notion qui est uniquement topologique et qui vont avoir une saveur qui est plus géométrique. Par exemple, le fait que les arêtes soient rigides plutôt que sinueuses, c'est quelque chose qui est très géométrique. Une contrainte qui est assez intéressante quand on dessine un graphe, ça va être que les distances dans la représentation soient assez similaires aux distances dans le graphe. Donc ça aussi, c'est une certaine histoire de géométrie. Pareil, la symétrie. La géométrie, c'est l'étude des symétries, si on en croit le programme de Klein. C'est assez important. Et donc, il va y avoir ces deux critères qui vont toujours interagir, optimiser topologiquement, géométriquement, et aussi optimiser algorithmiquement. On veut des algorithmes qui ont un faible temps de calcul pour être efficaces sur des très grands graphes. Un autre critère qui apparaît évidemment, c'est l'esthétique. Donc on peut considérer que ce graphe-là est plus beau que celui d'avant. Ce n'est pas clair quelle est la bonne façon de formaliser ça. Essentiellement, donc, Knuth disait qu'on ne peut pas formaliser l'esthétique. J'aimerais voir ça en un sens, qui est que chaque algorithme de dessin de graphe va toujours laisser une part d'appréciation à l'utilisateur qui va dépendre de sa sensibilité, mais évidemment de l'application et de qu'est-ce qui va compter. Donc essentiellement, toute cette problématique de dessin de graphe, il ne faut pas oublier qu'elle va beaucoup dépendre des applications qui sont extrêmement diverses. Donc, je vais juste illustrer cette diversité par deux domaines qui constituent des domaines de recherche assez actifs autour des dessins de graphes et où vraiment on va voir que la problématique n'a rien à voir dans les deux cas. Un premier cas, les réseaux sociaux. Donc on veut représenter des individus, Facebook, LinkedIn, quelque chose comme ça. C'est des graphes qui sont énormes. Ils ne seront pas planaires. On ne pourra pas les dessiner sans croisement. L'enjeu ici, ça va être quoi ? Ça va être, généralement, ce qui nous intéresse comme phénomène dans les réseaux sociaux, c'est de faire apparaître des points qui sont centraux, des personnes qui sont très connectées, des personnes qui vont faire office de passerelle entre différentes communautés, ce genre de choses. Donc des clusters, des réseaux, des nœuds centraux. Illustrer certaines propriétés des réseaux. Donc, il y a cette histoire de petit monde dont on parle assez souvent, que chaque individu est à au plus 6 degrés de séparation d'un autre individu. En termes de graphe, cela signifie que le diamètre d'un graphe de réseau social est très faible. Et on aimerait bien que cette propriété soit visible dans une représentation du graphe. Donc ici, est-ce que le diamètre est faible ? Est-ce que c'est réussi ? On laisse ça à l'appréciation de l'utilisateur. Et surtout, les graphes sont très gros, on a besoin d'algorithmes extrêmement efficaces, capables de gérer des réseaux où il y a des milliers, des dizaines de milliers et plus de nœuds, et de les représenter assez rapidement. Donc ça, c'est une problématique de dessin de graphe. Une autre qui n'a rien à voir, si on fait de la cartographie. Donc un exemple ici, c'est si on fait de la généralisation cartographique. Il s'agit de quoi ? On pourrait croire que la cartographie s'est assez éloignée de ces thématiques de dessin de graphe parce qu'on a déjà un graphe et il est déjà dessiné. Donc qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? Ben, une opération qui est essentielle quand on réalise des cartes, c'est d'adapter la carte au niveau de zoom que l'on considère. Donc, par exemple, à gauche, elle n'est pas très zoomée, et à gauche, elle est assez zoomée, à droite, elle est assez dézoomée. Donc, c'est une petite portion d'une carte à une échelle tout à fait différente. Et donc, on part d'informations qui sont la vraie position des routes, des maisons, des villes, de ce genre de choses, mais il faut un peu redessiner tout ça pour que ça reste lisible. Donc, quand on est à un niveau de zoom très grand, on peut se permettre d'avoir des routes très sinueuses, et quand on dézoome, il faut abstraire ces informations-là. Donc il va falloir redessiner les graphes. Et quand on fait ce genre de choses, quelles sont les contraintes ? Ben, bon, toujours, c'est pas clair, c'est assez esthétique, certes, mais il y a des contraintes qu'on est obligé de respecter. Une contrainte importante, c'est par exemple si on a une route qui passe à droite d'une maison, ce sera important qu'elle passe à droite d'une maison, peu importe le niveau d'abstraction qu'on considère si la maison est importante. De la même façon pour les villes, ce sera important de respecter plus ou moins une certaine notion géométrique aussi pour les routes, pour qu'on puisse comprendre la longueur. Donc c'est quelque chose, il y a vraiment une problématique de dessin de graphe derrière tout ça. Et on voit qu'elle n'a rien à voir avec celle de l'exemple précédent. C'est quelque chose de très différent. Quelque chose qui est à la mode aussi en termes de cartographie, c'est comment on représente un plan de métro. Vous partez d'un plan de métro, vous savez où sont les stations, vous savez où sont les lignes, vous voulez quelque chose d'assez beau qui soit lisible. Encore une fois, c'est réaliser une bonne abstraction d'une carte qui est déjà existante de façon automatique et convaincante. Donc ce que je voudrais montrer à travers ces deux exemples, c'est qu'il y a énormément de choses à faire et on pourrait croire que en analysant la littérature de ce genre de choses, ce n'est qu'un énorme sac de techniques ad hoc. On part d'une application et puis on va designer une solution pour cette application-là et puis ça va faire un papier et puis on fait ça encore une fois et puis c'est pas toujours facile de voir des grands systèmes, des grandes techniques qui se dégagent. Donc moi, j'aimerais vraiment insister plutôt sur les techniques qui se dégagent, qui ont une certaine élégance, une certaine structure mathématique, avec de nombreuses connexions, plutôt que sur les techniques ad hoc et les techniques heuristiques, qui ont leur importance, parce que vu que ça vient d'applications, il y a des problèmes à résoudre. Donc en particulier, moi, je vais m'intéresser à certains aspects de cette théorie qui sont très riches qui sont très versatiles, qui s'appliquent dans pas mal de situations différentes, et qui sont riches en structures mathématiques, en connexions, que ce soit avec la théorie des graphes, la combinatoire, la géométrie, ce genre de choses. Et un champ du dessin de graphes qui se prête bien, enfin, pour lesquels il y a des techniques qui sont vraiment d'une certaine généralité et élégante, c'est cette étude des graphes qui sont dessinés sans croisement, donc des graphes planaires. Donc je vais surtout me concentrer sur ces objets-là, en parlant de quelques techniques liées à ceci. Donc d'une part, les plongements de tête et les techniques à base de ressort, les boîtes Schneider qui sont un outil combinatoire très très fort pour représenter les graphes planaires, et un volet beaucoup plus géométrique basé sur la théorie des empilements de cercles. Et enfin, dans une quatrième partie, je parlerai de comment est-ce que ces problématiques peuvent aussi être formulées quand on dessine des graphes, pas sur le plan, mais sur une surface, donc le genre de surface que le professeur Boissonnat a introduit, donc le tore, le double tore, peut-être la bouteille de Klein, ce genre de choses, et les enjeux qui sont très actuels que cela représente. Donc commençons, un graphe est planaire si l'on peut le dessiner dans le plan sans croisement. Donc on dit que le graphe est plongé dans le plan. Donc une première question, si on s'intéresse à représenter les graphes planaires, c'est déterminer quels graphes sont planaires. Ils ne le sont pas tous. Mais il y a un test maintenant assez vieux dû à Hopcroft-Argent, un algorithme qui permet de décider en temps linéaire si un graphe est planaire. Ça a été raffiné de nombreuses fois, mais donc cette question-là de décider si un graphe est planaire, on sait la résoudre algorithmiquement et efficacement. Et en plus, l'algorithme fournit une représentation combinatoire d'un plongement. C'est-à-dire, l'algorithme ne va pas fournir strictement la position des sommets et des arêtes, ce qui est ce à quoi on s'intéresserait dans un dessin de graphe, mais va fournir une certaine façon de décrire le graphe plongé et une façon qui permet de effectivement vérifier qu'il est plongé. Donc c'est ce qu'on appelle, suivant les communautés, une carte ou un système de rotation. Donc, par exemple, une façon de faire ça, c'est de dire quel va être l'ensemble. Donc, un graphe, c'est des sommets et des arêtes, et quand il est dessiné dans le plan, ces sommets et ces arêtes dessinent des faces aussi. Donc, par exemple, là, chaque triangle ici dessine une face. Et simplement lister combinatoirement quelles sont la liste des faces est une façon de décrire un plongement planaire. Mais c'est très combinatoire, ça ne donne pas la localisation des sommets. Une façon alternative, c'est de décrire quel est l'ordre des arêtes autour de chaque sommet, donc ce qu'on appelle un système de rotation. Donc là, par exemple, autour du sommet 0, on dit que les arêtes sont dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le sens trigonométrique, et ça permet aussi de décrire combinatoirement ce que c'est qu'un graphe plongé. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'une fois qu'on a cette représentation combinatoire, on est loin d'avoir résolu notre question. Comment est-ce qu'on dessine ce graphe-là ? Et un outil clé dans toute l'étude des graphes planaires, qui est maintenant très vieux, c'est le théorème de Fari, qui a été prouvé par Wagner en premier, qui dit qu'un graphe planaire On peut toujours le dessiner dans le plan de la sorte que toutes les arêtes soient des segments. Ce qui a priori n'est pas évident. On pourrait penser qu'il existe des graphes tels que pour les dessiner dans le plan, on est obligé d'avoir quelques arêtes sinueuses, mais ce n'est pas le cas. Et donc, dans un premier temps, on va adopter ça comme paradigme d'un graphe qui est bien dessiné. C'est un graphe donc, qui sera dessiné de façon planaire où les arêtes sont des segments. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir ça? C'est une question à laquelle s'est intéressé Tutte dans un papier intitulé How to Draw a Graph en 63, et qui vraiment a fourni une technique remarquablement simple et remarquablement puissante pour résoudre cette question-là. Comment ça marche? On part d'un graphe planaire. Alors pour des raisons techniques, on va commencer par le trianguler. Donc s'il y a des faces comme ça où il y a quatre bords, on va rajouter une arête au milieu, et puis on continue jusqu'à ce que le graphe soit triangulé. Et on va faire quelque chose de conceptuellement très simple. On va prendre la face extérieure, donc tous les sommets qui sont sur l'extérieur du graphe ici. On va les clouer avec un marteau pour pas qu'ils bougent. On va remplacer moralement toutes les arêtes par des ressorts d'une raideur arbitraire. Donc on peut prendre la même raideur pour tous les ressorts. On peut choisir tous les paramètres que l'on veut. On relaxe le système. Du coup, naturellement, les ressorts vont atteindre une situation d'équilibre où ça va être des lignes droites. Et puis, on avait rajouté quelques arêtes au début, donc maintenant, on les retire. Et on obtient un dessin de graphe dans le plan où les arêtes sont des segments. Et il y a un miracle, enfin moi, je trouve que c'est un miracle dans cette technique, c'est qu'on peut montrer, et Tutte a montré, que le dessin obtenu est vraiment un plongement, donc un dessin planaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a utiliser cette technique d'optimisation très naïve avec des ressorts, on ne va pas avoir de paires d'arêtes qui se croisent. Ce qui n'est pas évident a priori, on pourrait très bien avoir les sommets qui sont placés de sorte que même si on dessine les arêtes par des lignes droites, elles vont se croiser, mais ce ne sera pas le cas. Et du coup, c'est une technique assez naïve et une heuristique assez puissante, et en plus, on peut prouver qu'elle fonctionne pour ce paradigme qui est de représenter des graphes planaires. Alors, en pratique, donc cette histoire de calculer un point d'équilibre, ça peut se calculer de façon assez efficace. On peut ramener ça, par exemple, à un problème d'algèbre linéaire. Mais en pratique, cette technique se heurte à des problèmes assez embêtants. Donc, par exemple, ce graphe-là est obtenu à partir de cet algorithme-là. Et on voit que ce n'est pas très satisfaisant. On peut avoir des problèmes d'agglutinement. Par exemple, une façon de formaliser le problème, c'est que le rapport entre les longueurs de la plus courte arête dans le graphe et de la plus longue arête dans le graphe peut être exponentiel en la taille du graphe. Donc ça va faire qu'il va y avoir des arêtes qui sont très courtes et géométriquement, le graphe sera peu satisfaisant. Du coup, une façon de résoudre ça, c'est de se dire, très bien, on a beaucoup de flexibilité dans la méthode. On peut un peu modifier toutes les techniques qu'on a utilisées, donc c'est quelque chose qui a été, je crois, introduit par Eads en 84. Donc c'est développer des techniques à base de ressorts qui sont beaucoup plus flexibles pour résoudre ce genre de problème. Donc par exemple, Eads a proposé d'utiliser des forces un peu différentes, donc au lieu d'utiliser des forces de ressorts normales, il utilise des forces logarithmiques pour les arêtes, de telle sorte que quand les arêtes sont loin, la force ne soit pas trop grande, et ça permet un peu plus de flexibilité dans le graphe. Et pour éviter ces effets d'agglutinement, on va aussi introduire des forces répulsives dans les sommets qui sont non adjacents. Et on va faire la même chose. Ce qu'on aimerait faire, c'est placer les sommets et laisser le système se relaxer. Alors, en pratique, comment on fait pour calculer une relaxation du système? Une façon très naïve de le faire serait d'émuler le système physique. Donc on choisit une certaine constante et on répète m fois, on calcule la force sur chaque sommet et on déplace chaque sommet. Et puis une fois qu'on a fait ça, on considère qu'on a bien placé les sommets et on peut dessiner les arêtes linéairement entre tout ça. Donc c'est une technique assez vieille qui permet dans un certain nombre de cas de résoudre certains problèmes liés à la méthode de Tutte et qui du coup est une heuristique assez dominante dans cette problématique de dessin de graphe, enfin très importante. C'est comme ça qu'ont été obtenus le dessin de réseau social dans l'exemple précédent. À côté, ici, là, on a un wiki. Donc c'est quelque chose qui est très versatile parce qu'on a énormément de paramètres. Si on l'essaye, ce n'est pas satisfaisant. On peut bidouiller un peu les paramètres pour que ça marche mieux. C'est assez efficace. Mais je dirais le gros problème de ces choses-là, c'est que vraiment, c'est des heuristiques. On n'a aucune garantie sur le résultat qu'on va obtenir. Donc, à part pour la méthode de Tutte qui nous garantit qu'on va obtenir un plongement et que les arêtes ne se croiseront pas, même si on part d'un graphe planaire, en appliquant ces heuristiques, on n'a aucune garantie, on n'a pas de preuve qu'on obtiendra un graphe planaire, et on peut même facilement trouver des contre-exemples assez simples pour des techniques qui sont pas faites pour contrer ces contre-exemples, avec des graphes qui ne seront pas planaires alors qu'ils devraient l'être. Donc, voilà, c'est une direction qu'on peut poursuivre pour représenter des graphes. Je mentionne juste très rapidement qu'en termes d'heuristiques pour représenter des graphes, il y a pas mal de travaux qui sont basés sur la théorie spectrale des graphes, donc à base de valeurs propres, de vecteurs propres, d'utiliser les vecteurs propres pour représenter les graphes. Je n'en parlerai absolument pas, mais c'est quelque chose qui marche assez bien. Moi, je préférerais plutôt m'intéresser à la question de comment on résout ce problème-là, mais toujours en restant sur une fondation théorique solide, donc en étant sûr que ça marche bien. Une façon de formuler cette question-là, c'est si on part d'un graphe, je devrais écrire planaire ici, à n sommets, est-ce que c'est possible de le plonger sur une grille qui n'est pas trop grande, c'est-à-dire que les sommets vont devoir être des points sur la grille, et de cette façon-là, on est sûr qu'on n'aura pas trop d'effet d'agglutinement. Donc c'est une question qui a été posée par Rosenstiel et Targent en 86. Et quelques années plus tard, on a montré que la réponse était oui, et même sur une grille très simple, de taille linéaire, donc pas les travaux de Defressé, Pack-Polak et Schneider différemment. Et ce qui est intéressant, c'est que pour obtenir cette propriété donc, plus forte que l'approche assez naïve de Tutte, une méthode consiste à étudier de façon assez précise la structure des triangulations planaires. Et notamment d'utiliser une notion qui s'appelle les bois de Schneider. Donc, pour réaliser cet objectif de bien dessiner un graphe, on utilise des propriétés structurelles assez fortes des graphes planaires, qui, en plus, a priori, pourraient ne pas laisser croire qu'elles servent à ça. Donc, je vais parler un peu de ça. Qu'est-ce que c'est qu'un bois de Schneider ? Donc, vous partez d'un graphe triangulé. S'il n'est pas triangulé, peut-être qu'on peut se débrouiller en rajoutant des arêtes. C'est plus propre si on part de graphes triangulés, où il y a d'autres techniques pour les graphes 3 connexes, un peu plus compliquées. Donc on part d'un graphe triangulé, où on a aussi triangulé la face extérieure. Donc il y a 3 sommets sur la face extérieure. On les appelle A0, A1, A2. Et un bois de Schneider sur cette triangulation, c'est une partition de toutes les arêtes en 3 ensembles qui vont être des arbres. Donc des ensembles qui ne vont pas avoir de cycle et qui vont de plus être orientés. Donc c'est ce qu'on voit ici, il y a des orientations sur les flèches, avec une contrainte locale qui est que localement autour de chaque sommet, ça ressemble à ça. C'est-à-dire quoi ça ressemble à ça ? C'est-à-dire qu'il y a au plus une arête de chaque couleur qui sort, et les arêtes qui rentrent, rentrent de l'autre côté de l'arête qui sort. Donc par exemple ici, les vertes rentrent seulement entre l'arête rouge et l'arête bleue. Une deuxième contrainte pour fixer ce qui se passe sur les bords, sur les sommets du bord. Il y a un bord de couleur rouge, où il va uniquement y avoir des arêtes intérieures qui vont arriver et de couleur rouge. Pareil, un bord de couleur bleue, un bord de couleur verte. Donc ça, c'est un exemple de bois de Schneider sur une triangulation. On peut vérifier qu'autour de chaque sommet, cette structure locale combinatoire est vérifiée. Et on peut, donc toute triangulation planaire admet une telle décomposition en trois arbres avec cette propriété, et on peut calculer cette décomposition en temps linéaire par diverses méthodes dans lesquelles je ne vais pas rentrer. À quoi ça sert ? Une fois qu'on a ça, il y a un algorithme extrêmement simple pour dessiner un graphe sur une grille. C'est lequel ? À cause de la propriété locale, dès qu'on a un sommet à l'intérieur du triangle, il y a un unique chemin de chaque couleur vers les sommets sur les coins du triangle. Donc il y a un chemin rouge, un chemin bleu, un chemin vert. Ça définit des régions. On a 3 chemins, du coup, ça définit 3 régions. On va noter phi i de v, le nombre de faces dans chaque région. Donc ici, j'ai simplement dessiné un sommet, mais si vous prenez ce graphe-là, par exemple, à l'intérieur de chaque région, il va y avoir un certain nombre de faces du graphe planaire. On va avoir un certain nombre de faces, et simplement, on va placer le sommet v aux coordonnées phi 1 de v, phi 2 de v. Théorème. On fait ça, on relie les sommets par des segments et on obtient un plongement du graphe sur une grille de taille le nombre de faces moins 1, parce qu'il y a une différence de 1 quand on fait ça, où f est le nombre de faces. Donc quand on fait ça, on a encore, je dirais peut-être le même miracle que dans le théorème de Tutte, qui est que ça permet d'avoir une position des sommets où il n'y a pas de croisement. En pratique, comment ça se passe ? Donc, vous prenez un sommet, par exemple celui-là. Celui-là, on peut considérer qu'il a un chemin qui l'emmène là, un chemin qui l'emmène là, et donc toutes les faces sont comprises dans la troisième coordonnée, qui est celle qu'on n'a pas comptée. On compte seulement deux coordonnées. Du coup, on va le mettre aux coordonnées 0, 0. Puis après, on prend un sommet, celui-là par exemple, on regarde les faces. Donc il y a la coordonnée du bas ici, il y a deux faces entre, dans la zone entre le bleu et le vert. Du coup, ce sommet-là, on va le mettre à l'abscisse 2. Et puis, similairement, on compte de ce côté-là. Il y a 4... Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces entre le rouge et le bleu. Du coup, on le met à l'abscisse 6. On dessine ça sur la grille et cela fonctionne. Et en fait, ce n'est pas très difficile de comprendre pourquoi ça fonctionne. Donc, dans un premier temps, il faut montrer que les triangles ne seront pas aplatis. Et dans un deuxième temps, que deux triangles consécutifs ne vont pas se rentrer dedans quand on fait ça. Et c'est vraiment lié à cette structure de trois faces où on voit que quand on avance à partir d'un sommet le long d'une arête, en fait, les régions vont être contenues les unes dans les autres. Certaines régions vont être contenues les unes dans les autres, donc on peut facilement comprendre qu'est-ce qui se passe localement avec cet algorithme où on place les sommets en fonction du nombre de faces. Je devrais dire à cet endroit-là, c'est un peu mystérieux, j'ai utilisé que deux coordonnées ici. Quand on met la troisième coordonnée, on a tout un tas de choses intéressantes aussi, mais c'est vraiment la façon la plus simple, je trouve, de dessiner un graphe sur une grille. Donc c'est une structure qui est combinatoirement assez différente de la problématique et donne quelque chose de très bon pour dessiner un graphe sur une grille qui est meilleur que la technique de Tutte et qui sert à énormément d'autres choses. Donc dès qu'on fait des triangulations de graphes planaires, c'est un outil qui revient régulièrement, faire de l'encodage, de la compression, de la génération aléatoire. Une autre application qui est à mon avis intéressante parce qu'elle fournit un certain autre paradigme pour penser à des représentations de graphes. On peut montrer avec ces techniques que tout graphe planaire est un graphe de contact de triangle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce graphe planaire-là, on peut le représenter tel que chaque sommet correspond à un triangle et il y a une arête quand deux triangles se touchent. Alors ici, on dit strict pour éviter. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pathologie dans la façon dont les triangles se touchent. Donc c'est toujours un sommet du triangle avec une arête. Donc voilà, ça, c'est une façon de dessiner ce graphe-là. Donc, en termes de dessin de graphe et de lisibilité, ce n'est pas forcément la façon la plus naturelle de le faire, mais c'est un paradigme intéressant aussi de voir comment représenter un graphe selon diverses manières, qui peut révéler certaines propriétés, certaines structures et certains bons algorithmes de dessin de graphe. Donc, dans ce cas particulier-là, en plus, on peut voir que toutes ces représentations sont en bijection avec les bois de Schneider. Et ça me donne donc un tremplin pour parler de la technique suivante à laquelle je suis très attaché. Au lieu de représenter les points par des triangles, on ferait mieux les représenter par des cercles, ce serait plus naturel. Donc, c'est possible, c'est un théorème assez vieux maintenant, plus ou moins trouvé indépendamment par des techniques différentes, en tout cas par Koebe, André F. et Thurston, que tout graphe triangulé G peut être réalisé dans le plan comme un graphe de contact de cercle. Donc ça veut dire que, même jeu, pour chaque sommet, on prend un cercle, comme celui-là, et deux sommets vont être adjacents, si et seulement si les deux graphes se touchent. Les deux cercles se touchent. Donc là, on a un exemple avec une triangulation assez grande, et les cercles qu'on obtient, le rayon des cercles va varier, et si on veut ajouter la contrainte que les cercles ont tous le même rayon, ça ne sera pas possible. Mais voilà, avec un peu de flexibilité sur les cercles, on peut le faire. Et à quoi ça peut servir ? Par exemple, ça nous fournit une autre preuve du théorème de Faye-Wagner, parce qu'une fois qu'on a cette représentation par les cercles, donc il y a un sommet qui correspond à chaque cercle, donc on peut mettre le sommet au centre, et puis les arêtes, eh bien, elles vont correspondre au chemin qui est entre les deux centres de cercle, qui va être toujours une ligne droite, vu que c'est un graphe de contact de deux cercles. En pratique, ce genre de représentation, on peut la calculer efficacement. Il y a toujours des difficultés d'approximation numérique et des fois d'agglutinement. Et quelque chose qui est assez surprenant, c'est qu'on a une propriété très forte en plus avec ce théorème de représentation de graphes par des cercles, c'est une propriété d'unicité. Donc unicité, ça veut dire quoi? Il faut réfléchir un peu, parce que dès qu'on a une transformation du plan qui va envoyer les cercles sur les cercles, on va avoir une autre représentation du même graphe qui sera différente. Mais donc modulo toutes ces transformations du plan qu'on appelle les transformations conformes, de façon équivalente, c'est les transformations du plan qui respectent les angles, la famille de cercles qu'on obtient est unique. Et du coup, dans cette idée de c'est quoi la bonne façon de dessiner un graphe, avoir une façon qui donne un résultat unique, ça donne, au moins c'est une technique qui est un peu canonique, et si on peut lui trouver des bonnes propriétés, c'est assez, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Et je voudrais dire aussi que cette technique-là, donc QB, c'était un géomètre complexe, cette technique-là, elle, essentiellement, elle a ses racines dans des domaines mathématiques assez différents de la théorie des graphes, et notamment donc, de la géométrie complexe. Essentiellement, c'est un avatar discret, dans un sens qu'on peut rendre assez précis, du théorème d'uniformisation de Riemann, au moins dans le plan. Et ça marchera aussi pour les surfaces. Et il y a même des connexions avec la géométrie hyperbolique en trois dimensions, qui ont plutôt été observées par Thurston, où par exemple, la preuve de l'unicité de cette représentation-là peut être obtenue par... par un théorème de rigidité des variétés hyperboliques de dimension 3 qui s'appelle le théorème de rigidité de Mostow. Bon, tout ça pour l'instant c'est un peu abstrait. Quelque chose que je voudrais faire, c'est partir de cette structure, donc on ne voit pas trop à quoi elle peut servir, et montrer une application que je trouve très belle, qui est récente, due à David Epstein, pour faire certains dessins de graphes, pour faire des dessins de Lombardi. Alors qu'est-ce que c'est que des dessins de Lombardi? Donc Lombardi, c'est l'artiste américain qui avait dessiné cette image en exemple. Donc, on peut argumenter que quelque chose qui donne la saveur à cette image-là, c'est la structure assez circulaire, c'est représenter les arêtes par des arcs de cercle. Et du coup, on abstrait une tentative pour abstraire ça, c'est cette notion de dessin de Lombardi. Donc, c'est un dessin de graphe où les arêtes sont toutes représentées par des arcs circulaires et les arêtes autour des sommets sont espacées régulièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, pour un graphe où tous les sommets sont de degré 4, comme celui-ci, on a toujours un angle de 90 degrés entre deux arêtes consécutives. Si le sommet était de degré 3, on aurait des angles de 120 degrés. Donc on peut... est-ce que c'est un bon paradigme pour dessiner des graphes? C'est une question d'esthète. Mais par exemple, quelque chose pour lequel ça peut être utile, c'est pour dessiner des nœuds. Un nœud, c'est un... Mathématiquement, c'est un plongement de S1 dans R3, donc simplement c'est une corde fermée dans l'espace. Et souvent, on la représente en la projetant dans le plan. Donc quand on fait ça, on obtient un graphe avec des sommets de degré 4, si à chaque croisement, on met un sommet. Et c'est quoi un bon dessin de nœud? Ben, ça va être un dessin où on voit assez bien quel brin de nœud part de quel côté. Et donc cette notion d'avoir des angles de 90 degrés fait qu'on a toujours une belle ligne droite sur les brins, sur la continuité de brins quand on les dessine. Donc ça peut être par exemple un bon paradigme pour dessiner des nœuds. Et pour l'anecdote, j'étais un workshop il y a quelques mois avec des théoriciens des nœuds et des dessineurs de graphes qui ont beaucoup interagi sur cette question-là, parce qu'apparemment, c'est avoir un bon algorithme, une bonne librairie pour dessiner des nœuds, c'est un problème qui n'est pas très étudié et où ça pourrait donner une solution. Oui ?
Je vais juste faire une remarque qu'à chaque intersection, à partir de l'intersection, ils ont tous quatre segments.
Oui. Donc, si on part de graphes qui sont quatre réguliers, donc où tous les sommets ont quatre arêtes adjacentes, ça fait, voilà, cette notion-là fait des angles de 90 degrés autour de ça, et c'est notamment le cas des plongements de nœuds, c'est tout ce que je dis.
Par contre, on est obligé de supposer que c'est une projection dans le plan de quelque chose qui se passe dans l'espace 3D.
C'est pas, on est obligé de supposer.
Par-dessus.
C'est un exemple où, vu que ça vient d'une projection 3D, il y a cette propriété-là. Ouais. Donc une question qu'on peut se poser, c'est, donc là on a un dessin de Lombardi, mais il n'est pas planaire, il y a des intersections entre les arêtes. Quel graphe admet des dessins de Lombardi planaires et comment les calculer? Et une solution pour s'attaquer à ces problèmes-là, c'est d'utiliser des techniques d'empilement de cercles. Donc il y a des travaux de David Epstein sur ces questions-là. Ça marche seulement pour certains graphes, mais ça donne des résultats assez probants. Donc, par exemple, les graphes médiaux des graphes 3 connexes planaires admettent des dessins de Lombardi planaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous partez d'un graphe trois connexes comme celui-là. Si vous ne savez pas ce que c'est que trois connexes, ce n'est pas grave. Et vous voulez dessiner le graphe médial. Le graphe médial, c'est le graphe où on met un sommet sur chaque arête. Donc, on les voit ici. Et on met une arête sur, entre les sommets qui sont sur des arêtes adjacentes dans l'ordre circulaire autour des sommets. Donc, c'est pareil que le line graph pour les graphes trop réguliers, si vous préférez ça. Donc là, on va vouloir dessiner le graphe noir. Comment est-ce qu'on fait ça ? On commence par calculer un empilement de cercle de celui de gauche. Puis on va aussi calculer un empilement de cercle de son dual. Le dual, c'est quoi ? On met un sommet dans chaque face et on relie les faces adjacentes par une arête. Et il y a une variante du théorème d'empilement de cercle qui dit qu'on peut dessiner en même temps un graphe et son dual, avec des cercles comme ça, et avec une structure un peu supplémentaire qui va être que tous les cercles vont se croiser avec des angles droits. Donc là, par exemple, tous les cercles rouges et bleus vont se croiser avec des angles droits. Donc là, par exemple, le cercle rouge va croiser le bleu avec un angle droit ici. Enfin, pareil pour tous les cercles. Et maintenant, donc, on veut dessiner le graphe noir avec des arcs de cercle. Donc, ils vont être où les sommets du noir ? Les sommets du noir, si on voit là, ils sont exactement au point d'intersection entre le graphe primal et le dual. Donc ici, ils vont être sur les points d'intersection des cercles. Donc, par exemple, on va mettre un sommet là, et on veut les relier. Comment on veut les relier ? Ben, on sait qu'il y a un angle de 90 degrés entre les cercles. Donc, quelque chose de naturel, ça va être de partir à 45 degrés ici, puis de partir à 45 degrés ici, d'espérer qu'il y a un arc circulaire qui les relie. Et effectivement, c'est le cas. Donc la structure d'empilement de cercles va permettre d'utiliser cette heuristique, enfin, pas cette heuristique, de simplement relier les sommets, ici, de telle sorte, donc on va avoir des arcs de cercle et on va avoir cette belle propriété à 90 degrés. C'est un peu mystérieux comme ça. Pourquoi est-ce que ça marche ? Pourquoi est-ce que ça, c'est un arc de cercle et pas une autre forme bizarre ? Gardons un peu de mystère pour ça. Passons à l'exemple suivant qui est encore plus mystérieux et après, on va éclairer un peu ce mystère. Une autre classe pour laquelle ça marche, les graphes 3 connexes, 3 réguliers planaires admettent des dessins de Lombardie planaires. Donc vous prenez un graphe comme celui-là et vous voulez en faire un dessin de Lombardie comme ceci. Comment vous faites ? Vous calculez un empilement de cercle de son dual. Donc c'est le graphe où pour chaque sommet, pour chaque face, vous mettez un sommet. Par exemple, vous aurez celui-ci. Et comment on fait pour obtenir le diagramme de Lombardie ? Vous allez calculer le diagramme de Voronoi de cet empilement de cercle. Mais pas pour n'importe quel... Donc, diagramme de Voronoi, rappelons, ça veut dire quoi ? C'est calculer l'ensemble des points qui vont être plus proches d'un cercle que d'un autre cercle, et regarder les points qui sont à la frontière. Donc, on va faire ça, mais pas pour n'importe quelle fonction distance, pour une fonction distance un peu particulière qui ne va pas être la distance euclidienne, mais celle-ci. Ça veut dire quoi ? Donc, la distance d'un point à un cercle, ça va être la distance au carré à son centre, moins le rayon du cercle au carré sur deux fois le rayon. Alors, s'il n'y avait pas le 2 fois le rayon ici, ce serait la puissance du point par rapport au cercle, et c'est un peu normalisé par rapport au rayon. Bon, théorème, qui a l'air magique, enfin, qui ne fait pas beaucoup de sens comme ça. Si on fait ça, on obtient un dessin de Lombardie planaire du graphe à la base. Pourquoi ? C'est un peu mystérieux. Et c'est une raison pour laquelle j'aime beaucoup cet exemple, c'est parce qu'en fait, ce qui se cache derrière tout ça, c'est la géométrie hyperbolique en dimension 3, d'une façon qu'on peut expliquer de façon très simple, même si on ne connaît pas bien la géométrie hyperbolique. Donc c'est quoi la géométrie hyperbolique en dimension 3 ? C'est un monde où vous vivez simplement dans un demi-espace, donc dans le modèle du demi-espace de Poincaré, donc vous considérez un plan et vous regardez seulement les choses qui se passent au-dessus du plan. Et c'est une géométrie, donc il y a des droites, il y a des plans, et les plans dans cette géométrie vont être des sphères qui coupent le plan à angle droit. Donc cette bulle de savon ici, c'est une sphère, c'est un plan hyperbolique. Donc ici, chacun de nos cercles, on peut voir ça comme le bord d'un plan hyperbolique en dimension 3. Ce qu'on va calculer le diagramme de Voronoi dans l'espace hyperbolique en dimension 3 de ces sphères. Et en 3D euclidien, quand vous avez deux plans, le diagramme de Voronoi, ce qui se passe entre les deux, ça va être le plan bisecteur. Donc en géométrie hyperbolique, ça va être pareil. Les arêtes, les plans de Voronoi vont être des plans hyperboliques. Et les plans hyperboliques, c'est des cercles. Donc toutes les arêtes qu'on va avoir ici, ça va être des cercles parce qu'en fait, ça vient de plans hyperboliques en dimension 3. Et cette fonction distance revient à... C'est la fonction distance qu'on va obtenir à l'infini par rapport au diagramme hyperbolique. Et il y a une deuxième contrainte qu'on voulait, c'était cette histoire de 120 degrés autour des sommets. D'où est-ce que ça va sortir ? Et là, il y a encore un argument qui est magique, mais cette fois sort de l'unicité des empilements de cercles. On a dit que les empilements de cercles sont uniques à transformation conforme près. Et il y a toujours une transformation conforme si vous prenez trois cercles qui se collent, qui envoient ça vers trois cercles qui ont le même rayon et qui forment un triangle équilatéral. Et là, une fois que vous avez ça, si vous prenez le diagramme de Voronoi, ben vous allez avoir 120 degrés. Et les transformations conformes respectent les 120 degrés, donc vous obtenez exactement ce qu'il faut. En pratique, là je mets des bulles de savon, c'est pas anodin. Il y a certaines théories, il y a certaines connexions assez fortes avec les graphes qu'on peut obtenir à partir de bulles de savon et les problèmes de plateau en dimension 2 et 3 qui viennent de cette théorie-là. Quelque chose que. Donc, la raison, d'une part, c'est un peu anecdotique, mais la raison pour laquelle je voulais parler de ça, c'est que. Bon, ça utilise des diagrammes de Voronoi, ce qui colle bien dans le cours. Mais aussi, vraiment, c'est un exemple où des techniques géométriques qui, a priori, n'auraient aucun rapport avec le problème qu'on se pose, donne des bonnes solutions à un problème de dessin de graphe. Et la base de tout ça, c'est ce théorème d'empilement de cercles. Je pense que c'est une bonne illustration de sa puissance et des nombreuses connexions et applications qu'il peut donner. Ensuite, donc on a vu que pour les problèmes pour les graphes planaires, il y a certains paradigmes et certaines techniques combinatoires géométriques qui permettent d'obtenir des dessins avec certaines propriétés. Quelque chose que je trouve intéressant, c'est étudier comment ces problèmes-là peuvent se généraliser et se poser même déjà si au lieu de dessiner des graphes dans le plan, on les pose sur les surfaces. Donc une surface, c'est quoi ? C'est une variété de dimension 2. Donc c'est par exemple la sphère. Pour moi, le plan avec des obstacles, ça va être une surface intéressante. Quand on dessine un graphe dans le plan avec des obstacles où on a des contraintes sur comment on passe par rapport aux obstacles, déjà, c'est quelque chose d'un peu différent de juste descendre dans le plan. Et puis après, ça peut être le tore, le double tore. Donc, on peut classifier toutes les surfaces par le nombre de trous qu'elles ont. Et donc, par exemple, ça, c'est, on appelle ça le genre. Ça, le tore, c'est une surface de genre 1. Ça, c'est une surface de genre 2. Donc une problématique générale, c'est si vous avez des graphes qui ne sont pas planaires, vous voulez les dessiner quand même, vous pouvez les dessiner sur des surfaces, comment faire ça? Quels sont les bons algorithmes? Ce qui tombe bien, c'est que pour commencer, la première question qui était est-ce qu'on peut plonger un graphe dans le plan, elle a une réponse positive également sur les surfaces, qui est donnée par ce théorème de Mohr. Donc pour chaque surface donnée S, on peut dessiner en temps linéaire si un graphe donné est plongeable sur S. Alors, bon, il y a une complexité un peu cachée là-dedans. La dépendance en S est exponentielle. Donc l'algorithme est de pire en pire quand le genre augmente. Mais au moins théoriquement, ça fournit une première base pour dessiner des graphes sur la surface. Alors pourquoi s'intéresser aux graphes sur la surface? Un peu de contexte. Donc, voilà, tous les graphes ne sont pas planaires, même ceux qui pourraient l'être comme en cartographie. On sait bien qu'il y a des tunnels, des échangeurs, ce genre de choses. Et dans tout un tas d'applications où on pourrait s'intéresser à redessiner des graphes, les choses ne sont pas planaires. Par exemple, donc ça c'est un maillage que j'ai pris, c'est un exemple Cigale. Un maillage, c'est un graphe, et on peut s'amuser. En un sens, on peut dire que remailler une surface, c'est une certaine façon de redessiner le maillage. Et dès qu'on travaille donc, sur ces maillages-là, il faut être capable de gérer des problèmes à cause du genre important. Une autre façon de voir les choses, c'est que c'est une façon de traiter cette question des croisements. Si vous avez un graphe qui est plongé sur une surface où il n'y a pas beaucoup de poignées, vous pouvez aplatir les poignées et ça vous fait un graphe où vous aurez un certain contrôle sur le nombre de croisements. Alors, si on fait ça de façon très naïve, ça fait un très mauvais contrôle. Mais en pratique, par exemple, le meilleur algorithme connu pour calculer le nombre de croisements d'un graphe passe par de la géométrie des surfaces et ce genre de technique-là. Une autre raison de s'intéresser à des surfaces, c'est parce que certaines symétries et périodicités sont encapsulées par la notion de surface. Donc typiquement, si vous avez un graphe qui a une symétrie dans deux directions dans R2 comme ça, dessiner ce graphe-là en respectant cette symétrie-là, ça revient à le dessiner dans le tore. Donc ça, c'est un tore. Si vous identifiez l'arête du haut avec l'arête du bas et l'arête de droite avec l'arête de gauche, vous obtenez un tore, comme Jean-Daniel l'a expliqué tout à l'heure. Et voilà, et dessiner le graphe sur cette surface-là, ça revient à dessiner le graphe infini dans le plan via une notion, via des structures de revêtement ou de revêtement universel, mais intuitivement, dans cet exemple-là, ça marche bien. Et quand on dessine le graphe sur des surfaces plus compliquées, les symétries vont être plus compliquées, donc typiquement, ça va être des symétries hyperboliques comme celles qu'on voit ici dans le dessin des chairs. Mais donc il y a certaines symétries qui viennent de certains groupes qui peuvent aussi être résumées par une problématique de dessin sur les surfaces et que étonnamment on voit en pratique. Genre, ce n'est pas uniquement un objet artistique. La géométrie des surfaces, de leur revêtement et tout, a pas mal d'avatars pratiques et qui servent vraiment à quelque chose. Alors, maintenant qu'on a des surfaces, on peut revisiter ce deuxième problème que j'avais donné en introduction, qui est celui de la généralisation cartographique. Donc, vous avez un premier graphe, disons, il est dessiné dans le plan, et mettons que toutes les maisons sont des obstacles. Et vous voulez le dessiner à un autre niveau de zoom, donc vous allez avoir un deuxième graphe. Une structure essentielle de votre opération de dessin, ça va être de devoir maintenir le fait que les maisons sont du bon côté de la route. La façon de formaliser ça, ça va être qu'entre vos deux graphes, vous allez vouloir pouvoir faire une déformation continue qui ne passe pas au-delà des maisons. Donc c'est ce qui est illustré dans cette animation-là. Là, on a une isotopie, donc c'est ça, c'est une déformation continue entre deux graphes, qui est un certificat qu'on n'a pas fait trop de bêtises quand on a redessiné la surface. Et c'est un problème auquel je me suis intéressé. Donc comment décider si, quand on a deux graphes, il existe une isotopie entre ces deux graphes. Et alors, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails de ce résultat. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que vraiment, l'outil clé dans tout ça, c'est encore la géométrie hyperbolique. Cette fois en deux dimensions et pas en trois dimensions. Et ça me fait un point de départ pour dire que dans toute cette problématique de dessiner des graphes sur la surface, il y a des problèmes géométriques qui rentrent en compte. Pourquoi ? Quand vous dessinez un graphe dans le plan, la géométrie, c'est la géométrie euclidienne, c'est évident. Quand vous dessinez un graphe sur une surface, il faut choisir quelle va être la géométrie qui vous intéresse. Et donc, pour le tore, on pourra encore utiliser la géométrie euclidienne dans de nombreux cas, mais dès que les surfaces sont un peu plus compliquées, un bon choix, ça va être d'utiliser la géométrie hyperbolique. Précisément, pour le tore, si vous voulez dessiner un graphe sur cette surface-là, donc un premier choix pourrait être de simplement considérer, par exemple, la géométrie héritée par la géométrie euclidienne de R3 sur ce tore et dessiner le graphe dessus vis-à-vis de cette géométrie. Alors, oui, je ne l'ai pas dit, pourquoi on s'intéresse à une géométrie ? Je pourrais être, par exemple, du théorème de Wagner qui dessine des graphes avec des segments. Ce que c'est un segment, c'est une notion géométrique, ça dépend de la géométrie qu'on choisit sur le tore. Par exemple, si on choisit cette géométrie ici, on peut s'intéresser à cette problématique-là, mais d'un côté, ce n'est pas très naturel. Les points qui sont de ce côté-là du tore, localement, il y a une courbure qui n'est pas du tout la même que les points qui sont de l'autre côté. Donc c'est une structure qui n'est pas du tout symétrique. Mm-hmm. Et un meilleur choix serait de les dessiner avec une métrique euclidienne. Le tore a une métrique euclidienne qui est simplement celle qu'on obtient en mesurant les distances dans cette représentation du tore dans le plan où on passe du tore en identifiant les côtés droite et gauche, et haut et bas. Et donc, dès que j'ai un segment dans cette représentation-là, je vais pouvoir mesurer simplement sa longueur de façon euclidienne. Pareil, si le segment est un peu long, même s'il fait plusieurs tours, je peux simplement mesurer la longueur euclidienne. Mais déjà, là, on voit qu'il y a, il y a encore un choix à faire. Cette géométrie-là, ce n'est pas la même que cette géométrie-là. Les longueurs vont être différentes, et il ne va pas y avoir les mêmes propriétés. En pratique, on dit qu'il y a une infinité de métriques euclidiennes sur le tore, et ce n'est pas clair laquelle choisir. Alors, le carré 1 fois 1 peut avoir une certaine préférence parce qu'il est plus naturel, mais déjà, on a un certain choix qui n'existait pas dans le cas planaire. Alors, si on revisite les questions qu'on a posées auparavant, comment est-ce qu'on fait pour dessiner un graphe dans le tore ? Une façon de faire, c'est donc de poser les mêmes contraintes avec une structure de géométrie euclidienne, donc de dessiner le graphe dans une grille avec des arêtes qui sont des segments. Et par les techniques de Bois de Schneider ou d'autres techniques basées sur l'ordre canonique, des résultats récents ont montré qu'on peut dessiner tout graphe toroïdal sur une grille toroïdale de taille pas trop grande. Et donc ça marche bien, Mais la question, c'est, ça marche bien parce que le tore, c'est un peu particulier. Il y a une métrique qui est euclidienne, qui est assez naturelle et qu'on sait bien manier. Et comment faire ça pour des surfaces de genre plus grand? Là, le choix naturel ne va plus être le choix euclidien, ça va être des métriques qui vont être donc, hyperboliques, peu importe ce que ça veut dire. Donc la structure naturelle métrique sur une surface de genre plus grand, elle est hyperbolique. Donc comment est-ce qu'on fait pour dessiner un graphe sur une surface plus grande? Donc il y a un peu de littérature. Il y a des travaux qui visent à découper la surface, la dessiner dans le plan, mais ça, c'est quelque chose de très particulier. Ça fait que dans la représentation, il va y avoir une place différente donnée aux arêtes du découpage. Comment choisir celle-ci, c'est vraiment pas très canonique. Donc les résultats ne seront pas forcément très convaincants. On a vu des techniques à base de ressorts, donc des techniques à la base de TUT. Comment on peut faire pour dessiner un graphe sur une surface? On met tous les sommets, on met les arêtes, on met des ressorts, on attend que ça se relâche. Est-ce que ça marche? Là, on a un analogue prouvé du théorème de TUT, qui est un théorème d'Yves-Colin de Verdière, qui montre que si on part d'un graphe qui est plongé, le résultat va être encore plongé, si la métrique est hyperbolique. Donc, en pratique, on a une garantie. Dans une littérature un peu différente, il y a des implémentations de ce genre de choses, où là, on a un exemple avec des graphes plongés sur une sphère. Mais il y a un vrai problème avec ces techniques-là, c'est que on va pas changer le type d'homotopie des courbes, ça veut dire quoi? Si vous avez une courbe qui s'enroule des tonnes de fois autour du tore, vous pouvez remplacer tout ce que vous voulez par des ressorts, elle va toujours s'enrouler des tonnes de fois autour du tore. Alors que peut-être la bonne façon de la représenter, ce serait de la représenter tout droit. Et donc, comment passer outre ce problème? Il faut avoir une technique qui est assez différente de ces techniques à base de ressorts. Est-ce qu'on peut faire des boîtes Schneider? Donc, dans le tore, on sait faire. En genre plus grand, c'est une question intéressante, mais pour l'instant, personne n'a vraiment trouvé la bonne notion qui se calcule et donne les bonnes propriétés. Les empilements de cercles, ça se généralise, mais cette fois, on a un problème dû à l'unicité, c'est que essentiellement, ça va être trop unique. La métrique va dépendre du graphe. Donc, le théorème, c'est quoi? Vous partez d'un graphe qui est triangulé sur une surface, il va exister une métrique de telle sorte que le graphe va être représenté par un empilement de cercles sur la surface mais de cette métrique-là. Et si vous prenez un graphe différent, la métrique va être différente. Donc vous avez quelque chose qui n'est vraiment pas canonique. Et notamment, ce n'est pas super pour comparer les graphes. Et donc, pour conclure, une question qui m'intéresse beaucoup, c'est cette question, c'est de revenir un peu plus à la base. Dans le plan, quelque chose qui marchait très bien, c'est le théorème de Fourier-Wagner. Vous avez un graphe plongeable dans le plan, vous pouvez dessiner ces arêtes par des plus courts chemins, par des segments, donc par des plus courts chemins. Est-ce qu'il y a une propriété de ce genre qui marche pour des surfaces? Donc pour une surface donnée S, est-ce qu'il existe une métrique dite universelle, telle que tout graphe plongeable sur S admet un plongement où les arêtes sont des plus courts chemins? Et donc on a travaillé là-dessus récemment. On a montré que pour les surfaces simples, donc par exemple la sphère, le plan projectif, le tore et la bouteille de Klein, on peut trouver de telles métriques qui sont essentiellement les métriques les plus simples auxquelles on peut penser. Mais dès que le genre est plus grand, la question est ouverte. On ne sait pas s'il existe cette belle façon de plonger des graphes par des plus courts chemins, s'il existe une bonne métrique qui marchera pour tous les graphes. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que, essentiellement, la plupart des métriques ne marcheront pas. Donc avec une probabilité tendant vers 1 quand g tend vers l'infini, une métrique aléatoire ne sera pas universelle, donc ne permettra pas de faire ce genre de plongement. Alors, il y a toute une question qui est, qu'est-ce qu'une métrique hyperbolique aléatoire? Quel est le modèle? Je ne vais pas rentrer dedans. Donc, ce qui m'intéresse surtout, c'est que ça montre que le résultat n'est pas trivial. Enfin, si c'est possible de le faire, va falloir vraiment trouver une structure, une façon de trouver une métrique particulière pour le faire. C'est aussi, je dirais, c'est pas facile de trouver une seule métrique qui n'est pas universelle, de montrer que c'est le cas. Et ici, grâce à des outils probabilistes, on y arrive. Donc, c'est encore une illustration de la puissance de certaines techniques probabilistes pour montrer des théorèmes. Donc le dessin de graphe, c'est un domaine où il y a une très grande diversité de problématiques qui donne lieu à une très grande diversité de techniques. Donc je me suis juste concentré sur quelques techniques assez spécifiques, mais que je trouve élégantes et qui, à mon avis, portent le fruit de nombreux algorithmes et beaux dessins de graphe. Et notamment parce qu'il y a de nombreuses connexions avec tout un tas de disciplines. L'irruption de la géométrie non euclidienne dans ces problématiques-là est assez inattendue à mon goût, et je pense qu'elle est intéressante. Et donc, la géométrie algorithmique, la topologie algorithmique et ce genre de questions-là ont leur rôle à jouer pour dessiner des jolis graphes. Et je vous remercie. Merci.